aux Romains, au chapitre 8, Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Un mot est venu en mon esprit quand j'ai prié pour ce message, c'est le mot chair, la chair. Alors j'ai pensé au passage qui en parlait et on va voir ce que l'Écriture dit de la chair. Alors la chair, vous vous en rappelez, hein, il ne s'agit pas du corps, hein, de la graisse. La chair dans la Bible, c'est la nature humaine, c'est la nature pécheresse, hein, la nature qui a tendance au mal. Alors on va lire Romains chapitre 8, verset 1er au verset 17 et on y reviendra. Romains chapitre 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Donc la deuxième partie du chapitre, comme vous l'avez vu, bien aborde la vie de l'esprit, parce que les passages qui parlent de la chair parlent toujours ensuite de l'esprit. Alors la chair, quelques caractéristiques. Au verset 3, la chair est faible. Hein, Jésus a dit, la chair est faible. La chair est faible, il est dit que la chair rendait la loi sans force. Donc la loi, elle est bonne, elle est l'expression de la volonté de Dieu. Mais la chair, c'est-à-dire notre nature déchue, rend la loi inefficace, sans force. La chair, c'est la faiblesse. Si nous vivons selon la chair, si nous prenons appui sur la chair, nous n'aurons pas la force d'obéir à Dieu, de faire la volonté de Dieu. Nous venons de lire que chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Comme la chair était faible, alors il a fallu une autre chair. C'est ce que Paul nous dit ici, la chair de Jésus. De telle sorte que c'est dans la chair que la victoire a eu lieu, mais pas la nôtre, celle de Jésus. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant son propre fils dans une chair semblable, pas parfaitement pareil, puisque la chair de Jésus n'était pas déchue. Mais voilà quel a été le plan de Dieu. La chair de chacun d'entre nous et de l'être humain, à cause de la chute, elle est devenue faible. Nous étions dans l'impossibilité de suivre la loi de Dieu. Alors Dieu a envoyé une autre chair, celle de son Fils, pour condamner le péché dans sa chair à la croix. Le verset 6 nous dit que la chair, c'est la mort. Et ça, c'est quelque chose d'assez fort. Hein, il est dit, l'affection de la chair, c'est la mort. Et même au verset 13, il est dit ceci, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Ça vous rappelle rien? Ce que Dieu a dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et ici, il est dit un peu la même chose dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Si nous vivons selon la chair, nous mourrons. Alors, pas tout de suite, comme Adam, pas immédiatement, mais la chair, c'est la mort. C'est sûr et certain. La chair va nous conduire à la mort. Et que Dieu nous donne de bien comprendre que la seule façon vraiment de vivre, c'est par son esprit. Si nous laissons la nature, si nous sommes charnels, ce sera la mort, la destruction. Au verset 7, il est dit aussi que la chair, elle est ennemie et insoumise. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne le peut même pas. Elle est inimitié contre Dieu, dit le début du verset 7. Il y a dans la chair une révolte, une impossibilité d'obéir à Dieu, de suivre sa parole. Notre chair est mauvaise. Nous sommes mauvais. Nous sommes mauvais. Il y a en nous cette tendance à l'inimitié, à l'insoumission. C'est ce que nous sommes par nature, sans la grâce de Dieu. Le verset 8, il nous est dit même qu'avec la chair, on est dans le déplaisir. Il est dit que dans la chair, on ne peut pas plaire à Dieu. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Quand on est dans la chair, on n'est pas agréable à Dieu. Hein? Même si on connaît le Seigneur, voilà, on ne peut pas être agréable à Dieu dans ce que l'on est, par nature. Et puis, par contre, à partir du verset 9, le ton change, il est question après de l'Esprit. Si l'Esprit de Dieu habite en nous, alors il est dit que nous avons tous reçu l'Esprit, selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est-à-dire que si on appartient au Seigneur, on a l'Esprit. Hein, c'est sûr et certain. Si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ et que vous vivez comme chrétien, alors vous avez l'Esprit. Il n'y aurait pas des chrétiens qui, parce qu'ils parleraient en langue, auraient l'Esprit, et ceux qui ne parleraient pas en langue n'auraient pas l'Esprit. C'est si nous appartenons à Christ, nous avons l'Esprit. Nous marchons selon l'Esprit. À partir du moment où nous appartenons à Christ, la vie de l'Esprit est en nous. Et à partir du verset 10 plutôt, c'est là que commence un petit peu ce que donne la vie de l'Esprit. Bien, l'Esprit, c'est la vie. L'Esprit est vie. L'Esprit, c'est la vie. Au verset un peu plus loin, 10 encore, il est dit que même l'aboutissement de cette vie de l'Esprit, ce sera la résurrection, qu'il rendra la vie à nos corps mortels. La vie de l'Esprit agit déjà en nous pour la métamorphose, et cette vie de l'Esprit va aller jusqu'à la résurrection de notre corps. Nous serons ressuscités par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Donc la chair, c'est la faiblesse, c'est la mort, c'est l'inimitié, c'est l'insoumission, c'est le déplaisir, mais l'Esprit, c'est la vie, c'est la paix, c'est la résurrection. Dieu soit béni. On va lire maintenant le deuxième passage dans Galates chapitre 5, si vous voulez bien le lire avec moi, qui traite de la vie de l'esprit et de la chair. Galates chapitre 5, verset 13. Pour ne pas être long, je ferai la lecture simplement. Galates chapitre 5, verset 13. Galates chapitre 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors, on essaye souvent de faire l'inverse, on essaye d'être moins charnel pour être rempli de l'esprit. Mais en fait, ça c'est une impasse. C'est l'inverse de ce que la parole de Dieu nous montre. Il faut d'abord marcher dans l'esprit, et recevoir l'esprit, et nous pourrons vaincre la chair. Il ne faut pas diminuer la chair, il faut être rempli de l'esprit. Marchez selon l'esprit, et en conséquence, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point comme vous voudriez. Une autre traduction dit, c'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Quand on a compris que la chair, c'est la mort, c'est la faiblesse, c'est l'insoumission, c'est la révolte. Quand on a compris que c'est ce qu'on est, alors on comprend qu'on ne peut pas marcher par nous-mêmes. Qu'il faut que ce soit seulement l'Esprit de Dieu qui nous dirige. On ne peut pas être notre propre maître, on ne peut pas faire ce que l'on veut. Parce qu'on ne veut pas, par la chair, en tout cas on n'en a pas les moyens, faire la volonté de Dieu. Alors vraiment réaliser ce que dit la Bible de la chair va nous conduire à vraiment comprendre la nécessité d'être rempli de l'Esprit et d'être dirigé par l'Esprit et non pas d'être dirigé par nous-mêmes. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, alors ça c'est les premiers péchés concernent l'immoralité sexuelle, l'idolâtrie, la magie. Les deux suivants concernent les péchés religieux, on peut dire cela, hein, il y a des péchés religieux. Et puis ensuite, la majorité des œuvres de la chair concernent la vie sociale, la vie entre les humains, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'envie dans le sens de jalousie, pas l'envie dans le sens qu'on a des mauvaises envies, mais dans le sens de jalousie. Et les derniers reviennent à des péchés corporels, comme les premiers étaient sexuels, les derniers sont liés au corps, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Dans cette liste des œuvres de la chair, la grande majorité de ces œuvres concerne la vie entre nous. Pas forcément entre nous chrétiens, entre nous les hommes, parce que cela est vrai aussi avec les incroyants. La majorité des œuvres de la chair concerne nos relations sociales. Hein? La chair, elle se manifeste surtout dans la vie entre nous. Souvent, on parle de la vie de l'esprit comme étant une vie personnelle, être rempli soi-même de l'esprit, mais marcher selon l'esprit aura comme première conséquence une vie communautaire à la gloire de Dieu. Si on est vraiment dans l'esprit, la communauté ne mourra pas par la chair, mais vivra par l'esprit. Alors, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Là aussi, dans le fruit de l'esprit, beaucoup de choses sont pour le vivre ensemble. Hein? Amour, joie, paix, patience, bonté. Ça, le fruit, la vie de l'esprit, c'est beaucoup le vivre ensemble, plus qu'on ne l'a parfois réalisé. Un fruit, ça pousse tout seul, de soi-même. C'est le fruit de l'esprit, pas le fruit de nos efforts, pas le fruit de notre chair, mais le fruit de l'esprit. En réalité, il nous suffit de croire au Seigneur, de marcher en lui et de laisser son esprit faire son œuvre. On a beau ordonner à un arbre, il faut que ton fruit y pousse, ça ne changera rien du tout. On peut se mettre en colère, on peut vouloir que ça aille plus vite. Le fruit poussera naturellement à son rythme. Et dans tous les domaines de notre vie, le fruit a ses 9 aspects. C'est-à-dire que le fruit de l'esprit, ce n'est pas à un moment donné l'amour et puis après la joie. C'est tout pousse en même temps. Tout dans nos vies se développe par la vie de l'esprit. Verset 24, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. » Et là encore, vous avez vu, tout ce passage très connu sur la vie, le fruit de l'esprit est encadré par les relations fraternelles. Au verset 13, 14, 15, il est question des relations fraternelles. Et à la fin, il y revient. Verset 26, « Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. » Puis on termine Galates chapitre 6, verset 7, puisque cela continue jusque-là. Galates 6, 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Amen. » Et Paul termine ici, en tout cas nous terminons là pour cette méditation, avec cette pensée que Paul donne de semer pour l'esprit et non pas semer pour la chair. Qu'est-ce que c'est que de semer pour l'esprit? Ben, c'est lire la parole, c'est venir aux réunions, c'est faire du bien envers les gens, pratiquer le bien envers tous, c'est aimer. Semer pour l'esprit, ça va nous donner la vie éternelle, une vie abondante. Par contre, si nous semons pour la chair, si nous allons dans le sens de la chair va prendre tellement de place que ça deviendra la corruption qui amène à la mort. L'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de l'esprit, c'est la vie. Alléluia. Voilà quelques pensées. Je voulais simplement rappeler ce que l'Écriture dit sur la chair, sur l'esprit, et nous inviter à semer pour l'esprit, afin de moissonner ensemble la vie éternelle. Amen.